Bonjour, vous écoutez le premier épisode du podcast en français d'Investigate Europe. Je suis Anne-Laure Pinault et aujourd'hui je suis derrière le micro. Mais d'ordinaire, je traduis les articles en français pour cette coopérative de journalisme cross-border. Grâce à une équipe internationale d'enquêteurs et enquêtrices expérimentés, Investigate Europe propose des enquêtes très fouillées sur des sujets aussi divers que l'accès au vaccin du Covid-19, la 5G, le travail détaché, l'influence des lobbies sur les institutions européennes, le dur parcours des mineurs migrants non accompagnés. Aujourd'hui, nous recevons la correspondante française d'Investigate Europe, Leïla Mignano, autrice de plusieurs enquêtes, La guerre invisible sur les violences sexuelles dans l'armée française et Mauvaise troupe sur le recrutement problématique des jeunes soldats de France, entre autres. Des livres, tous deux sortis aux éditions des Arènes. Elle va nous parler aujourd'hui de la dernière enquête qui concerne le traité sur la charte de l'énergie, un obscur texte créé dans les années 90 pour protéger les investissements faits dans l'ex-bloc soviétique, mais qui aujourd'hui met en péril les objectifs européens pour lutter contre le réchauffement climatique. Une enquête assez glaçante. Bonjour Leïla, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Ça va bien. Ce sujet semble assez pointu de prime abord. En plus, le texte, on le connaît très peu, enfin il est très peu connu du grand public. Peux-tu nous rappeler de quoi il s'agit vraiment et pourquoi vous avez voulu travailler dessus ?
Donc du coup, c'est un accord assez ancien, donc a été un accord international qui a été voté à la fin des années 90, qui permet aux investisseurs qui travaillent dans le domaine de l'énergie, comme par exemple Total, BP, GDF Suez par exemple, de poursuivre des États pour des politiques en faveur du climat notamment qu'ils auraient mis en place. Donc du coup, à la base, cet accord il avait été fait pour protéger les investissements pays de l'Ouest, qui était dans les pays de l'Est à la fin de la guerre froide. Et bien finalement, c'est un peu une arme qui s'est retournée contre les pays de l'Ouest aujourd'hui parce que ce sont eux qui sont attaqués en justice par les investisseurs aujourd'hui.
Ce que tu dis en somme, c'est que les multinationales bénéficient de droits spéciaux en fait en Europe.
Alors cet accord international, il permet effectivement aux multinationales d'attaquer les États devant des tribunaux privés, des tribunaux d'arbitrage, c'est comme ça qu'on les appelle, et donc du coup de contester les lois et politiques climatiques qu'ils ont mis en place. Donc du coup, ça arrivait déjà dans plusieurs pays d'Europe, en Italie, en France, une entreprise canadienne a menacé le gouvernement français, donc ça arrive plusieurs fois. Et effectivement, c'est ce qu'on écrit dans notre article, c'est que c'est une justice totalement opaque, puisque personne n'a accès ni aux dossiers, ni aux audiences, ni rien du tout, alors que pourtant il s'agit de millions et parfois de milliards d'euros d'argent public.
Et dans l'enquête, vous mentionnez des conflits d'intérêts dans le secrétariat du traité. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors en fait, le secrétariat du traité de la charte sur l'énergie, c'est l'administration en fait du traité. C'est un groupe de moins d'une trentaine de fonctionnaires internationaux qui travaillent à la mise en place des différentes dispositions du traité, mais aussi à son expansion. Donc du coup, ce sont un peu les experts de ce traité, donc, comme tu le disais, qui est très, très mal connu. Et donc du coup, on va se rendre compte donc, au fil de notre enquête que certains d'entre eux ont clairement des conflits d'intérêts puisqu'ils ont créé des entreprises, des associations, des sortes de think tanks dans le domaine de l'énergie. Avec ces associations, ils vont travailler en relation directe avec les grands pontes de l'énergie. Donc effectivement, c'est un conflit d'intérêts qui est interdit par les staff regulations, donc par le règlement intérieur de cette administration. Et donc du coup, on va expliquer comment plusieurs d'entre eux vont avoir ces relations un peu très gênantes pour une administration qui est censée être objective, indépendante, autonome des intérêts privés.
Mais ce qui est un peu étrange dans cette histoire, c'est que le traité lui-même, à la base, est censé protéger les multinationales, et en tout cas les multinationales qui concernent l'énergie. Donc on pourrait supposer que le secrétariat est censé dealer avec les lobbies, non ?
Alors en fait, le secrétariat, c'est censé être une administration totalement autonome. C'est-à-dire qu'il deal effectivement avec les lobbies, mais il deal aussi avec les États membres en fait, donc la cinquantaine d'États membres du traité. Il deal avec les futurs États membres, donc ils sont tenus à la confidentialité. Et donc du coup, il deal avec un certain nombre d'acteurs. Ils sont payés pour ça à plein temps. C'est pour ça qu'il leur est interdit par ailleurs d'avoir d'autres activités. Puisqu'effectivement, si par ailleurs ils sont payés par l'industrie, et payés ça peut être effectivement en tant que consultant comme c'est le cas pour certains d'entre eux, mais aussi quand on participe à des think tanks, on a des intérêts, on fait naître des réseaux en fait qui pourraient faire perdre cette autonomie nécessaire dans le travail en tant que fonctionnaire, et ben effectivement, ça représente un conflit d'intérêts.
Et comment justement ce fameux secrétariat très opaque a réagi à votre enquête ?
Alors en fait, certains d'entre eux qui étaient clairement mis en cause par notre enquête n'ont pas été très contents en fait, ils ont été plutôt contrariés. L'un d'entre eux a été jusqu'à menacer l'une de nos journalistes qui lui a envoyé le contradictoire. Donc il lui a dit qu'il allait la poursuivre par tous les moyens nécessaires si elle publiait une enquête allant dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est une menace très sérieuse parce que c'est pas juste des menaces judiciaires, mais c'est des menaces par tout autre moyen. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ah, c'est clairement de l'intimidation. Ouais.
Et justement, pour ce genre d'enquête, c'est typiquement là où la force d'Investigate Europe, j'imagine, sa force de frappe, se remarque puisque vous êtes tous basés dans des pays différents. Ça aurait été différent si vous aviez travaillé chacun de votre côté, tu penses ?
Oui, je pense. Parce que par exemple, sur cette partie, sur le secrétariat, on a été trois à travailler avec des compétences très différentes. Et donc, on était trois avec mon collègue Wojciech Szyszla de Pologne, ma collègue Juliette Ferguson en Angleterre et moi. Et donc, du coup, on a chacun des compétences différentes. Et ça s'est vraiment, complété sur cette enquête. Et ça a permis, en termes de publication, de démultiplier la force de frappe. Je crois qu'on a eu, je sais pas, presque 20 publications différentes qui ont été énormément reprises. Donc du coup, voilà, c'était un traité méconnu, mais je pense que grâce à notre travail, on a permis de le faire un peu plus connaître.
Ouais. Et justement, Investigate Europe défend le journalisme d'impact. Est-ce que tu peux nous décrire l'impact que cette enquête a déjà et pourrait avoir dans le futur?
Alors, on a eu de la chance puisqu'elle a énormément été partagée par les ONG européennes, en fait, cette enquête, qui ont lancé dans le même temps une pétition pour appeler à un retrait des pays de l'Union européenne de ce traité écocide. Et aujourd'hui, elle a été signée par plus d'un million de personnes. Donc, c'est quand même assez incroyable. On parle d'un traité qui était totalement inconnu. Dans la presse française, il y avait eu un ou deux articles sur le sujet.
Et qui était censé le rester, j'imagine.
Exactement. Je pense que c'est dans l'intérêt des investisseurs privés de garder ce secret, en fait, autour de cet accord afin de préserver leurs intérêts, qui sont d'ailleurs pas les intérêts des citoyens européens, puisque c'est avec vos impôts, avec nos impôts, que sont payés en fait ces énormes indemnités. Donc on est par exemple sur l'affaire Yukos, on a 50 milliards d'indemnités qui sont demandées à l'État russe. C'est gigantesque et c'est de l'argent public. Donc du coup, effectivement, ce secret, le maintien de ce secret est dans l'intérêt des intérêts de ces multinationales de l'énergie. Et donc du coup, effectivement, par nos enquêtes, je pense qu'on a contribué à les rendre un peu publics. Et donc voilà, donc voyons ce que ça va donner. Est-ce que la pétition va rester sans suite, ou en tout cas va permettre effectivement d'une prise de conscience à l'échelle européenne?
Tu parlais du million de signatures, c'est quand même énorme. Et il y a aussi le soutien de Greta Thunberg, le soutien d'une personnalité quand même très importante dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que personnellement, tu as été impressionnée par cette réponse-là?
Ah oui, complètement, parce que c'est quelqu'un qui a un écho gigantesque en fait au niveau des militants du climat, mais aussi de l'opinion publique en général. Donc qu'elle ait pu la voir et la lire, c'est quand même assez impressionnant en termes d'impact. Et surtout, ça a permis un nombre de partages de la vidéo. Je crois que juste sur son partage, ça a été 100 000 vues.
Ah, c'est énorme.
Sur sa vidéo, donc du coup, effectivement, pour nous, c'était hyper impressionnant. Alors, pour tout te dire, au début, on s'est dit que vraiment, personne n'avait allait avoir beaucoup d'intérêt à lire cette enquête, en fait. C'est tellement inconnu, c'est tellement un sujet d'experts, de juristes, que personne n'allait s'y intéresser. Et donc, du coup, finalement, ça a pas mal marché.
Ouais, c'est génial. Bon, on espère que vous allez débusquer d'autres petits textes comme ça qui se cachent dans les tiroirs de l'Union européenne et de la Commission. En tout cas, merci beaucoup pour ton point de vue passionnant sur cette enquête. Et franchement, j'encourage tout le monde à lire tous les papiers qui sont sur le site français et d'ailleurs sur le site anglais si vous connaissez l'anglais, d'Investigate Europe. Donc c'est investigate-europe.eu. Merci beaucoup, Leïla.
Merci, Anne-Laure.